Et c'est l'heure du journal avec vous, Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Hervé, bonjour à toutes et à tous. À la une ce matin, la France reconfinée et en état d'alerte maximale face à la menace terroriste. 4000 soldats supplémentaires vont être déployés après l'attentat islamiste commis à Nice. 3 personnes tuées dans la basilique Notre-Dame. On en sait plus sur le suspect, un ressortissant tunisien de 21 ans débarqué sur l'île italienne de Lampedusa, arrivé en France. Ensuite, nous ferons le point sur les premiers éléments de l'enquête dans un instant.
Et le profil de l'assaillant exacerbe les tensions à l'heure du recueillement. 150 identitaires ont manifesté hier soir à Nice et scandé « On est chez nous ».
La France à l'heure également du reconfinement, masque obligatoire à l'école dès l'âge de 6 ans, télétravail massif et 15 milliards d'euros par mois promis aux entreprises en difficulté. À la une encore, au moins 140 personnes qui sont mortes au large du Sénégal en tentant de rejoindre l'Europe. Il s'agit du naufrage le plus meurtrier depuis le début de l'année, estime l'Organisation internationale des migrations. Témoignage dans ce journal d'un rescapé de l'horreur.
Et puis vous voulez sans doute que je vous parle du sujet de la radiographie du coronavirus tout à l'heure en compagnie de Nicolas Martin. Il nous expliquera pourquoi depuis 15 jours l'épidémie fait autant de ravages en France.
2 semaines après l'attentat qui a coûté la vie au professeur Samuel Paty, Emmanuel Macron réunit à nouveau en conseil de défense ce matin après l'attaque au couteau qui a fait 3 morts hier dans la basilique Notre-Dame de Nice. La spirale de la terreur en une ce matin de Libération. Nice, la barbarie islamiste se déchaîne contre la France, titre Le Figaro, quand le quotidien catholique La Croix forme un vœu d'espoir pour sa première page, tenir. Le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard a donné une conférence de presse hier soir et détaillé le parcours de l'assaillant. Il s'agit d'un ressortissant tunisien de 21 ans, entré en Europe par l'Italie fin septembre et arrivé en France ensuite. Les enquêteurs retrouvent sa trace hier matin, Florence Turme.
Les images de vidéosurveillance permettent de dater précisément l'arrivée de l'assaillant en gare de Nice. Il est 6h47 et il opère quelques modifications vestimentaires. Il retourne sa doudoune, change de chaussures. À 8h13, il prend la direction de la basilique Notre-Dame, située 400 mètres plus loin. Il y entre à 8h29. C'est le début de l'attaque meurtrière, précise Jean-François Ricard.
Il y restera un peu moins d'une demi-heure, période pendant laquelle il s'est attaqué à 3 victimes. À 8h54... une femme s'est enfuie par le côté gauche de la basilique. Elle décédera quelques instants plus tard de ses blessures. À 8h57, après avoir été requis par un particulier, une équipe de 4 fonctionnaires de la police municipale est intervenue. Ils ont fait face à l'auteur des faits qu'ils ont pu neutraliser. Il ressort des témoignages des primo-intervenants que cet homme s'était avancé vers eux de manière menaçante en criant « Allahu Akbar », en les contraignant alors à faire usage d'abord d'un pistolet à impulsion électrique, puis en faisant feu à plusieurs reprises avec leur arme de service. 14 études balles ont été retrouvées au sol.
Le procureur détaille également les blessures infligées aux victimes, notamment un égorgement très profond de l'ordre de la décapitation pour la première, une femme de 60 ans. Sur place, les enquêteurs ont retrouvé l'arme du crime, un couteau avec une lame de 17 cm et 2 autres qui n'ont pas été utilisées. L'enquête s'annonce particulièrement complexe, souligne encore Jean-François Ricard. L'assaillant, un jeune Tunisien de 21 ans, entré en Europe par l'île de Lampedusa le 20 septembre dernier, est très sérieusement blessé et son pronostic vital encore engagé.
Florence Turme, vous le disiez, l'assaillant a débarqué sur la petite île de Lampedusa à seulement 130 km de la Tunisie. Il y a à peine plus d'un mois, Bruce de Galzin nous retrace encore plus précisément son parcours.
Il est arrivé à Lampedusa le 20 septembre dernier. Ce jour-là, une 20aine de barques avec des migrants à bord accostent sur la petite île. Selon l'agence de presse ADN Chronos, le jeune Tunisien de 21 ans fait très vite l'objet d'une enquête pour immigration clandestine, une procédure normale. Il ne reste que 24 heures dans le centre d'accueil de Lampedusa, puis est transféré sur un navire de quarantaine, le Rhapsody. Il débarque ensuite à Bari, dans les Pouilles, le 8 octobre. Le lendemain, il est enregistré et photographié dans le centre pour migrants de la Croix-Rouge italienne, et puis plus rien. Libéré avec un ordre d'expulsion du territoire, il n'est pas détenu ni renvoyé dans son pays. Il quitte en tout cas le centre pour migrants de Bari et rejoint la France. Ce n'est pas la première fois qu'un Tunisien terroriste présumé arrive en Europe via Lampedusa. En février 2011, le principal suspect de l'attentat du marché de Noël à Berlin, perpétré en 2016, Anis Amri, débarquait sur la petite île sicilienne. Il sera tué près de Milan en cavale 4 jours après l'attentat.
Les autorités tunisiennes condamnent fermement l'acte terroriste commis hier à Nice et appellent à des efforts internationaux conjoints pour lutter contre le terrorisme, alors que depuis la révolution de 2011, des milliers de Tunisiens sont partis rejoindre le groupe État islamique en Irak, en Syrie ou en Libye. Ils seraient entre 3000 et 6000 sur le terrain, sans compter donc ceux qui commettent des attentats en Tunisie ou à l'étranger comme en France. De quoi tendre le climat à Nice, alors que de nombreux habitants ont rendu hier soir un dernier hommage aux trois victimes de l'attentat. Le climat était très loin de la concorde nationale, Thibault Lefèvre.
L'odeur de la cire après celle du soufre, des dizaines de Niçois sont venus hier soir allumer des bougies au pied de la basilique.
La République, c'est nous, c'est tout le monde, on est tous dans le même bateau.
Et dans le grand bateau de la République, il y a Fatia, une jeune maman maquillée, voilée, française et musulmane.
Je suis vraiment choquée de commettre un acte immonde dans un lieu aussi sacré. C'est un monstre. Il faut vraiment, vraiment ne pas céder à la division. On veut tous que la République sorte gagnante.
Au même moment, 150 identitaires, une grande majorité d'hommes, plutôt jeunes, habillés en noir, ont défilé sur l'avenue Jean Médecin, qui longe la basilique. Des slogans provocateurs, et pourtant Steve, un des participants, se défend de vouloir jeter de l'huile sur le feu.
Il y a quand même une personne qui a été à moitié décapitée, deux autres qui sont mortes. Je pense que c'est un peu fort de dire que c'est nous qui mettons l'huile sur le feu. On est juste des jeunes niçois qui expriment aussi notre colère, parce que c'est pas normal que notre peuple effectivement subisse ces attaques à répétition. Cette guerre, comme ils le disent eux-mêmes.
Les manifestants se sont dispersés dans le calme après le dépôt d'une gerbe de fleurs devant la basilique. C'est la première fois que les identitaires niçois expriment massivement et publiquement leur position après un attentat.
Ne rien céder à l'esprit de division, c'est l'injonction lancée hier par Emmanuel Macron qui s'est rendu à Nice. En France, il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté nationale, a déclaré le chef de l'État. Je veux dire à tous nos concitoyens, quelle que soit leur religion, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, que nous devrons dans ces moments nous unir. Emmanuel Macron présidera, je le rappelle ce matin, un nouveau conseil de défense.
Il est 7h07 sur France Culture, la suite de votre journal, Catherine Dutu. Jean-Michel Blanquer promet un protocole sanitaire renforcé pour accueillir tous les élèves sur l'ensemble du temps scolaire, et ce, dès lundi prochain.
Mais ces nouvelles mesures, comme le masque obligatoire à l'école dès l'âge de 6 ans, n'arrivent pas à rassurer les syndicats d'enseignants. Comment accueillir 12 300 000 élèves? Les précisions de Cédric Hermel.
Pour y arriver, les élèves de la crèche au lycée doivent éviter de se croiser au maximum. Ça vaut pour les récréations qui se feront en décalé, parfois même dans la classe, pour l'arrivée et le départ de l'établissement, ou encore à la cantine quand même ouverte avec des passages au compte-gouttes. Pour le collège et le lycée, les élèves resteront assis dans la même classe toute la journée. Ce seront donc les professeurs qui changeront de salle entre chaque cours. Quand cela sera possible, précise le ministre de l'Éducation nationale. Autre nouveauté, le port du masque devient obligatoire dès le CP, mais il y a des choses qui ne changent pas. Par exemple, le mètre de distanciation en classe comme dehors, le respect des gestes barrières toujours quand c'est possible. Ce renforcement du protocole rend amer plusieurs syndicats. Le SNES-FSU pour les profs du secondaire réclamait des cours en demi-groupe pour éviter le brassage au maximum. Jean-Michel Blanquer n'a pas retenu cette option. Même discours pour le SNUEPP-FSU pour l'enseignement primaire. Les deux syndicats répètent en chœur que ce nouveau protocole ne va pas assez loin. Peu de temps après les annonces, le SNES-FSU a déposé un préavis de grève du 2 au 7 novembre.
Et le port du masque dans les écoles primaires dès l'âge de 6 ans en France, ce sera une première lundi, mais c'est devenu une habitude maintenant depuis plusieurs mois au Japon. Le reportage à Tokyo de Karine Nishimura.
Tous les matins, Tomoki, 8 ans, part seul à l'école à pied à 7h45. Cartable, chapeau, téléphone d'urgence offert par l'arrondissement, petite serviette pour s'essuyer les mains et masque sont les 5 accessoires indispensables. On porte le masque depuis le mois de juin. On a un peu trop chaud, mais quand on joue dans la cour, on a le droit de l'enlever. À l'entrée de l'école, les enfants se désinfectent les mains et passent devant une caméra avec capteur de température pour vérifier qu'ils ont bien un masque et s'assurer qu'ils n'ont pas de fièvre. Selon un responsable de la section éducation d'une mairie d'arrondissement de Tokyo, le port du masque en primaire rassure les parents et ne suscite pas de débat.
Il n'y a aucun problème. Les enfants sont déjà habitués à porter un masque contre la grippe saisonnière. On est souple avec ceux qui rencontrent des problèmes de peau à cause du masque, mais sinon tout le monde le porte.
Tous les enfants se plient de bonne grâce à cette règle qui n'est en fait pas obligatoire car la discipline collective suffit. Du côté du corps médical, on souligne que la propagation de ce coronavirus est moindre chez les enfants, mais qu'il est quand même mieux de porter un masque.
Karine Nishimura à Tokyo pour France Culture. Les États-Unis ont enregistré hier un nouveau record de cas de Covid-19 en 24 heures, en franchissant pour la première fois la barre des 90 000 nouvelles contaminations, selon un comptage de l'université Johns Hopkins. À 4 jours de l'élection présidentielle, le candidat démocrate Joe Biden a fait de la gestion de la crise sanitaire son principal angle d'attaque contre Donald Trump. Une campagne présidentielle où 14 milliards de dollars ont été dépensés par les républicains et les démocrates. Thomas Larabi y revient dans la revue de presse internationale après le journal de 7h30. Au moins 140 personnes sont mortes au large du Sénégal en tentant de rejoindre l'Europe. Leur pirogue s'est renversée la semaine dernière suite à une explosion de son moteur. Il s'agit du naufrage le plus meurtrier depuis le début de l'année, estime ce matin l'Organisation internationale des migrations. Le président Macky Sall avait initialement annoncé une dizaine de morts dans un message de condoléances. L'armée sénégalaise, elle, parle de 51 rescapés. C'est le cas de ce jeune homme d'une vingtaine d'années, habitant du quartier populaire de Pikine à Saint-Louis, situé sur la côte nord-ouest du Sénégal. Il rêvait de partir en Espagne pour trouver une meilleure situation. Finalement secouru par la marine espagnole, puis remis aux autorités sénégalaises, il témoigne de l'horreur qu'il a vécue sous couvert d'anonymat au micro de Théa Olivier.
Quand ça a explosé, c'était chacun pour soi, pour s'échapper et survivre. Moi, j'ai attrapé un bidon dans mes mains, j'ai lancé le bidon, puis j'ai plongé, car c'était la bagarre pour trouver un bidon. Je suis resté pendant 3 heures de temps dessus. Quand ça a explosé, j'ai vu des gens à côté, peut-être morts. Mais personnellement, j'étais perdu et je ne pensais qu'à me sauver.
Un témoignage d'un rescapé de ce naufrage au large du Sénégal qui a fait au moins 140 morts. Il ne s'était pas exprimé publiquement depuis son arrestation en 2011. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est sorti de sa réserve hier avant la présidentielle de samedi pour appeler au dialogue en Côte d'Ivoire alors que beaucoup d'habitants redoutent de nouvelles violences autour du scrutin. Le convoi du secrétaire général de la présidence a été mitraillé hier soir sans qu'il n'y ait de blessés. Le président Alassane Ouattara brigue un troisième mandat controversé face à l'opposition qui appelle à la désobéissance civile. Les violences ont fait une trentaine de morts depuis 3 mois maintenant. Le temps de ce vendredi 30 octobre, gris au nord, ensoleillé au sud après dissipation du brouillard. Au meilleur de la journée, il fera entre 14 et 24 degrés du nord au sud. Hervé Gardet.